Alors, salut à tous, bienvenue à un premier épisode du tout nouveau podcast du groupe d'intérêt en médecine familiale de l'Université Laval, Baladomni. Donc, l'idée est venue de notre super co-présidente junior, Marie-Pierre. Toute l'année, on va tenter d'explorer différents sujets en lien avec la MedFam afin de vous montrer comment nos omnipraticiens débordent d'expériences intéressantes à raconter, mais surtout à quel point cette spécialité est diversifiée comme toujours. On espère que vous découvrirez des nouveaux aspects avec nous et que ça piquera votre curiosité. On va accueillir des résidents, des médecins, dont certains que vous connaissez déjà, et peut-être même certains de vos collègues, qui sait.
Donc, sans plus tarder, on accueille aujourd'hui notre première invitée, c'est notre premier podcast. Donc, on accueille Dr Dominique Vandal, qui est résidente de première année en médecine familiale, puis qui est une future maman. Donc, aujourd'hui, le but du podcast, c'est qu'elle nous partage en fait comment qu'elle jongle avec la résidence et sa grossesse, en fait, là. Donc, allô Dominique, ça va bien?
Oui, merci beaucoup de me recevoir.
Ça fait plaisir, merci à toi. Donc, pour commencer, là, on aimerait ça que tu te présentes dans ta globalité. Là. Fait qu'est-ce que tu peux nous parler plus de toi, de ton parcours scolaire, puis de ton parcours personnel, en fait? Là.
Oui, bien, au niveau scolaire, j'ai gradué l'année dernière là, à l'Université Laval. Moi, j'ai choisi de faire mon parcours en 5 ans, même si j'avais déjà de l'expérience à l'Université Laval. J'ai fait 2 ans en ergothérapie après avoir complété mon cégep en 2 ans. Ensuite, j'ai pris une année sabbatique parce que l'orientation de l'ergothérapie, c'était pas tout à fait pour moi. Mon année sabbatique m'a amenée à appliquer en pharmacie. Puis ensuite de ça, j'ai changé pour la médecine. Donc, j'avais 4 ans déjà de bagage universitaire avant de faire ma médecine. Puis, quand j'ai vu toutes les opportunités qu'il y avait au préclinique d'implication, moi, j'aime ça faire des projets, j'aime ça m'impliquer beaucoup dans plein de comités. Je voulais prendre mon temps, fait que je l'ai fait en 3 ans. Puis, ensuite de ça, quand est venu pour appliquer à la résidence, j'avais diverses options devant moi. J'avais, la médecine familiale qui était là. Il y avait aussi la médecine interne, qui était quelque chose qui m'apparaissait vraiment stimulant, un peu... qui fitait avec ma personnalité, qui veut toujours aller au bout des choses, qui va être leader beaucoup dans les équipes. J'aimais beaucoup l'expérience à l'hôpital. Puis, il y avait aussi la psychiatrie qui était présente. Puis, finalement, l'option du plan bébé a pris un petit peu les devants là, avec mon conjoint, que lui, il n'est pas du tout en médecine, là. Lui, il est mécanicien, donc... ça fait comme 10 ans qu'il est sur le marché du travail puis il était rendu là. Alors, on a fait le choix de fonder notre famille. Puis la médecine familiale, honnêtement, c'est le plus beau programme pour fonder une famille. Je pense, honnêtement, je n'ai pas l'expérience avec les autres spécialités. J'imagine qu'en psychiatrie, ça se fait quand même bien. Mais je présume que dans une spécialité chirurgicale ou une spécialité en médecine interne, c'est peut-être quelque chose de plus difficile. Puis au niveau personnel, ben, je me suis impliquée vraiment beaucoup dans le groupe d'intérêt en santé autochtone, dans le réseau d'aide, le réseau d'aide aux étudiants en médecine. Puis j'ai aussi participé à la fondation de l'hôpital des Nounours. Je ne sais pas si c'est un projet qui a encore lieu. La pandémie, malheureusement, a peut-être joué un petit peu sur des beaux projets là, qui avaient lieu avant, mais je pense que tout le monde essaie de tirer profit là, de la pandémie, soit en faisant des podcasts ou en faisant plein de choses en ligne, puis c'est vraiment cool. Puis, c'est ça. Je fais beaucoup de sport aussi. On essaie de déconnecter le plus possible. Ça, c'est quelque chose de beau aussi en médecine familiale. On a la possibilité de déconnecter puis vraiment d'arrêter. On n'est pas toujours, toujours, toujours dans les études. Je crois juste à entendre un peu de bouche à oreille là, qu'est-ce qui se fait dans les autres spécialités. Je pense que côté qualité de vie, c'est assez extraordinaire.
Bien, c'est super intéressant. Là. C'est clair que tout plein d'étudiants vont pouvoir te comprendre puis « relate ». À ta situation, là, c'est des noms de comités qu'on entend souvent, le RAM, le GISA, l'hôpital des Nounours. Fait que c'est super intéressant. Puis de ce que j'en comprends, la médecine familiale, c'était pas nécessairement ton premier choix, mais au final, qu'est-ce que tu en penses?
Mais au final, honnêtement, il y a aucun regret. Effectivement, ce n'était pas mon premier choix. Mon premier choix, c'était la psychiatrie. Puis c'est un peu vers ça que j'arrimais toutes mes choses, mes stages à option, etc. Mais la journée où j'ai eu mon match, honnêtement, j'étais tellement en paix avec moi-même de savoir que ce serait la médecine familiale. J'étais juste heureuse, là. J'ai pleuré de joie dans ma voiture, puis sachant que le plan famille allait pouvoir se réaliser. Puis aussi, admettons, choisissant la psychiatrie, mais on peut extrapoler ça à d'autres spécialités, à quelque part, c'est faire le deuil de certaines portions de la médecine. Moi, j'ai adoré mon stage de PED. J'ai fait un stage à option en gynéco parce que j'adorais l'obstétrique. J'ai adoré la psychiatrie. Mais je réalisais post-dépôt officiel de mon ranking que je mettais de côté peut-être la psychiatrie, la pédiatrie. Je mettais certainement de côté la gynéco. Il y a plein de choses comme ça que tu laisses de côté, veux, veux pas. Il y en a que ça leur fait bien plaisir, puis c'est parfait. Honnêtement, moi, ne pas être obligée de faire de chirurgie dans ma vie, ça me dérange pas. Puis il y en a qui seraient pas prêts à laisser ça de côté, puis c'est correct, mais je réalisais qu'en allant en psychiatrie, ce que je laissais de côté, j'y tenais beaucoup. Puis ça a été vraiment un soulagement. J'étais super zen là-dedans, puis c'est une excellente spécialité, la médecine familiale. Je dirais assez, jamais assez, mais c'est...
Mais c'est le fun d'entendre. C'est le fun aussi de voir des... Parfois, juste un parcours différent. Là. On aime ça prôner la médecine familiale, mais c'est le fun d'entendre quand c'est pour un premier choix, qu'est-ce qui a fait au final là, que tu es bien dans ta résidence. Là.
Puis, en fait, là, nous, on voulait savoir... Là, est-ce que tomber enceinte, c'était dans ta tête depuis longtemps? Est-ce que c'est arrivé par surprise? Est-ce que comme tu avais prévu un peu comme cette grossesse-là là, dans ton parcours scolaire?
Bien, c'est sûr que c'était pas quelque chose qui était possible pour moi à l'externat, considérant la charge de travail. Moi, j'étais en Élie à Rimouski, donc ça n'aurait pas vraiment été possible. Aussi, bon, il y a tout le contexte de la COVID qui faisait qu'il y avait une incertitude associée au stage. Puis honnêtement, moi, à la fin de mon externat, de la façon que les stages avaient été organisés, c'était impossible de manquer des journées supplémentaires. Il y a aussi l'aspect financier. Je ne veux pas qu'on y pense tout à un certain moment. Rendu à la résidence, ben, il y a un salaire. Donc, il y a possibilité d'avoir le RQAP, d'avoir certaines assurances aussi. À l'externat, prendre des congés, c'est assez compliqué, planifier ça d'avance. À la résidence, on a un horaire un peu plus structuré, on l'a d'avance, notre horaire, puis on a des congés auxquels on a droit en lien avec l'assurance collective. Puis, est-ce que c'était planifié que ça arrive immédiatement, aussi rapidement? Non, mais est-ce que c'était souhaité? Oui, dans le sens où nous, on était prêts à ce que ça se passe durant ma résidence, mais comme vous l'apprendrez ou vous le savez déjà, la grossesse, on est considéré infertile quand ça fait un an qu'on fait des essais normaux, là, assez intenses, durant plus d'un an, en fait, sans contraception. Donc, c'est sûr que nous, on a attendu le match, puis je suis due pour la fin début février. Donc, si on fait un calcul simple, il n'y a pas eu un grand délai entre le match et quand ça a fonctionné, dans le fond, pour nous. Puis on est vraiment choyés parce qu'il y a des gens que ça prend vraiment du temps. Ça peut prendre jusqu'à 2 ans, une aménorrhée post-pilule avant que tout le cycle recommence. Donc, on a été choyés, puis peut-être que là, on va réussir à avoir notre famille au complet durant la résidence. Là. Mais c'était planifié. Puis on est bien contents.
Parfait. Bien, puis aussi, dans le fond, là, moi, ce que je me demande, là, c'est... Tu sais, honnêtement, moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait aussi, tu sais, d'avoir tes un ou quelques enfants durant le parcours scolaire, là, comme résidence, c'est pas mal ce qu'on veut, je pense, là. Mais comment que tu as prévu là, les années futures là, en résidence? Est-ce que tu as comme est-ce que tu as prévu avoir des congés maternité? Est-ce que tu as prévu... Comment tu prévois jongler avec ta vie familiale et ta vie étudiante, là?
Hey. Si vous voulez, on peut même parler pré-vie familiale, là, pendant que le bébé est encore en création, si on veut. Moi, je suis choyée, j'ai aucun symptôme. Ça va très, très bien. J'ai pas eu de nausée, j'ai pas eu de fatigue plus qu'il faut. Ça va bien. J'ai faim, je prends mon poids comme il faut, je suis capable de rester active. On est allé en vacances dernièrement, on fait de la grosse rando. Puis bon, je me fais qualifier un peu de tortue quand je monte moins vite qu'avant, mais je monte quand même les montagnes de la Gaspésie. Là, puis. Mais une chose qu'il faut penser, c'est que ça peut aller moins bien que ça. Ça se peut que pendant ta grossesse, ton premier trimestre, tu sois fatigué, tu aies des nausées. Tu te sens moins bien dans ton corps. Au niveau émotionnel aussi, ça peut être plus difficile. Fait que ça, c'est tout à considérer. C'est sûr qu'il y a possibilité d'avoir des congés si ça ne va pas bien, mais dans un nombre limité. Il faut toujours se rappeler que oui, je vends qu'il y a des congés de plus parce qu'on est enceinte et qu'il y a beaucoup de flexibilité dans l'horaire, mais reste que pour avoir du succès dans un stage, c'est 75% du stage qu'il faut avoir complété. Fait que si ça ne va pas, puis il y a plein de nausées, puis on n'arrive pas à manger, puis ben, ça, c'est à considérer. Mais j'ai été chanceuse, puis je pense que si tu es en forme avant de tomber enceinte, ben, peut-être qu'il y a plus de chances que tu aies moins de fatigue, mais c'est pas garant de tout. Il y a aussi possibilité d'avoir un avortement spontané, que ça engendre quand même son lot de déception, de tristesse, ça peut ébranler au niveau émotionnel. Fait que c'est une possibilité que ça peut arriver. Si jamais ça prend un petit peu de temps aussi avant que la conception ait lieu, ben, faut pas s'en remettre trop sur les épaules. Puis je pense qu'on est assez stressé avec toutes les tâches de la résidence que faut pas se rajouter ça en plus sur le dos. Moi, je l'ai accueilli positivement, mais si ça prend du temps, mais je pense qu'il faut laisser les choses aller aussi, puis peut-être pas que ça devienne une fixation, parce que ça peut créer des problèmes autant dans la vie personnelle que dans la vie familiale. Fait que ça, c'est pour le côté grossesse. Évidemment, quand le troisième trimestre va arriver, moi, je suis optimiste, puis je me dis que je vais être capable d'arrêter assez proche de la fin, là. Je planifie d'arrêter autour de 37 semaines et demie, mais j'ai parlé à une patronne qui vient tout juste de partir en congé de maternité, puis elle me dit que je suis optimiste, que je risque d'être très fatiguée. Donc, ça, c'est à considérer. Il y a certains stages aussi qu'on ne peut pas faire. Le stage de nuit, parce qu'il existe des 12 heures, donc dès que tu es enceinte, c'est des journées de 8 heures maximum, avec des gardes, possible jusqu'à 20 semaines de grossesse. Donc, le stage de nuit, c'est sûr et certain que c'est impossible à faire vu que c'est des journées de 12 heures. Et en plus, c'est la nuit. Puis à partir de 20 semaines, c'est du travail de jour, pas de travail de fin de semaine, pas de travail de soir. Si le stage de périnatalité, qui inclut beaucoup de garde aussi, ça, c'est pas possible de le faire. Fait que ça, c'est à y penser. Puis le stage d'urgence, bien là encore, ça va dépendre s'ils sont capables d'offrir un stage d'urgence de jour. Parce que là, s'il y a des chiffres de soir, des chiffres de nuit, ça devient un petit peu compliqué là, à organiser avec l'horaire, étant donné la convention collective. Puis une fois l'accouchement, ben moi, je planifie de prendre un congé de 20... Il faut regarder en période, là, parce qu'il faut... Encore là, il y a l'histoire des 75%, fait... Il faut calculer en fonction des périodes. Moi, je suis chanceuse parce que je vais arrêter à la fin de P7, Donc là, les périodes, c'est de P1 à P13. Puis là, ben, dans le fond, si j'avais dû accoucher, ça tombait au milieu d'une période, ben, je n'aurais pas fait cette période-là au complet pour tout bien calculer mes choses, puis pas avoir un stage dans le vide. Puis je recommence là, à la fin du mois d'août. Il n'y a pas possibilité de prendre un an. Il y a possibilité de prendre moins de temps que ça. Personnellement, je n'avais pas envie d'arrêter un an puis d'être complètement déconnectée de la médecine. Je trouvais que c'était peut-être trop long pour moi. Fait que là, quand on regarde le RQAP, il y a comme deux sortes de régimes qui existent. Il y a le régime de base, que lui, ça va jusqu'à 50 semaines. Puis il y a le régime particulier, que lui, il est plus court. L'avantage du régime particulier aussi, c'est qu'il donne plus de pourcentage du salaire. Fait qu'admettons le régime particulier jusqu'à 21 semaines, je crois. Je vais avoir jusqu'à 95 % de mon salaire. Fait que ce qui est quand même très intéressant. Tandis que l'autre, ben, c'est juste un 70. C'est un 95 % aussi jusqu'à 21 semaines, mais après ça, tu tombes à 55 % là, c'est à voir. Puis aussi des semaines à partager. Donc, nous, moi, j'en donne amplement à mon conjoint qui va pouvoir prendre des congés aussi. Puis après, ça va être une autre étape, là. On espère avoir une place en garderie. Ça aussi, c'est quand même assez stressant. Dès qu'on a su que j'étais enceinte, avant de l'apprendre à nos familles, on a réservé notre place sur la place 05. Peut-être qu'on a une place en ce moment à suivre. On espère que ça va fonctionner l'endroit où on a trouvé.
Une étape à la fois, comme on dit.
Ben, c'est ça. C'est ça. Mais c'est une étape qu'il faut y penser dès que tu tombes enceinte.
Beaucoup de préparation.
Oui, c'est ça. Honnêtement, c'est pas mal la seule chose à faire au début, là. S'assurer que tu es inscrit partout pour les places de garderie. En parler au programme, parce qu'eux, ils vont faire les ajustements nécessaires dans l'horaire. Réorganiser la cédule. Après ça, c'est voir tranquillement que tout évolue bien. Puis,
Justement, on parle de programme, tu nous parles de période, 55-75 % pour les étudiants qui comprennent moins comment ça marche, le 55-75 %, qu'est-ce que ça veut dire
par rapport au stage? Ah, bien, le 55 %, c'était par rapport au salaire.
OK.
Dans le fond, au salaire, le RQAP, comment ça fonctionne? Dans le fond, nous, comme R1, R2, là, il faudrait regarder un peu plus la FMRQ, les échelles salariales. Mais dans le fond, moi, comme R1, j'ai un salaire X là, que je ne sais pas par cœur. Mais quand je vais prendre mon congé, dans le fond, le RQAP, il donne, c'est comme le régime parental du gouvernement auquel on cotise tous, donc auquel on a droit. Puis ça, il donne un montant, un pourcentage de ton salaire. Puis la FMRQ, la Fédération des médecins résidents du Québec, va bonifier ce pourcentage-là jusqu'à concurrence de 95 % du salaire, ce qui est très intéressant parce que la base, c'est 70 ou 75, dépendant ce qu'on choisit. Puis notre syndicat, dans le fond, des résidents, bonifie ça jusqu'à 95 % jusqu'à 21 semaines. Puis après ça, les semaines subséquentes, c'est selon le régime choisi. Fait que soit ça va être un 55 % ou ça va être un 75 %. Fait que c'est quand même intéressant à calculer. Une petite chose que j'ai oublié de mentionner dans le calcul de conception qu'il faut calculer, c'est qu'il faut avoir travaillé au moins 26 semaines pour avoir droit à 100 % du montant accordé. Fait que pour avoir 100 % du 95 %, il faut avoir au moins un 26 semaines de travailler. Donc, moi, admettons, je sais que ça tombait un petit peu avant Noël, ce 26 semaines-là, à partir du 1er juillet. Donc, si, admettons, quelqu'un vise absolument la médecine familiale, il sait que ça va être son match, il veut un enfant durant R1, bien, peut-être y penser dans le timing de la conception que si jamais tu es dû pour accoucher en septembre, bien là, tu n'auras pas le 95 % de ton salaire, tu vas peut-être avoir un pourcentage infime de ton salaire, dans le fond, pendant ton congé. Fait que c'est peut-être à garder en tête aussi.
Super intéressant. Puis c'est ça, tu nous en as parlé un peu déjà, mais comment ça fonctionne là, pendant la résidence? Tu nous as parlé de congé maternité, il y a de l'aide financière, les gardes. au niveau de la faculté, comment ça marche? Est-ce qu'ils sont assez conciliants? Est-ce que tu as trouvé ça stressant de devoir planifier tout ça?
Bien, moi, ils ont été... Honnêtement, je n'ai pas eu à gérer officiellement avec la faculté directement. Tout s'est fait à l'intérieur de mon GMFU. Est-ce que je peux parler pour tous les GMFU? Non. Mais je peux dire que le GMFU Neuchâtel, où moi, je fais mes études, sont extrêmement conciliants, sont extrêmement ouverts d'esprit. C'est une équipe de très jeunes patrons qui ont tous soit des enfants en jeune âge ou qui ont des grossesses planifiées ou en cours dans les prochaines années. D'ailleurs, on a une patronne qui vient de partir en congé de maternité, une secrétaire qui vient aussi de partir en congé de maternité, puis on sait qu'il y a des patronnes qui planifient ça à relativement court terme, d'avoir une grossesse. Donc, c'est sûr et certain qu'ils sont très ouverts. Aussi, veux pas, c'est écrit dans nos chartes de la FMRQ, là, dans nos affaires syndicales de la FMRQ, il y a des conditions de travail, puis tout est très, très, très bien négocié. Donc, en termes de j'aime pas ça parler de droit, là, mais la journée de 8 heures, c'est ton droit. Puis moi, personnellement, je l'ai apporté, surtout dans les stages à l'hôpital, où c'est des journées qui sont plus fatigantes, plus exigeantes, puis où c'est plus fréquent là, de terminer la journée plus tard, vers 6h, 7h du soir. Et moi, dès le début de ma semaine, avec mon patron, je dis, bon, si j'ai besoin de le dire, là, d'autres fois, ça paraît, mais je dis simplement que je suis enceinte, puis que selon les règles syndicales, puis pour me protéger aussi, pour me protéger de la fatigue, mais c'est 8h ma journée. Donc, souvent, à l'hôpital, on n'a pas le temps de dîner. On mange un peu sur un coin de table rapidement pour aller continuer à voir nos patients. Donc là, admettons, je fais plus du 8 à 4. Puis qu'au bureau où je fais du 8 à 5, puis ça ne me dérange pas parce que j'ai l'heure de dîner, c'est un travail assis, c'est peut-être un petit peu moins exigeant que ce qu'on fait là, à l'hôpital. Autrement, il y a des journées spéciales de grossesse. Fait qu'il y a 4 journées supplémentaires là, de congés spéciaux qu'on appelle qui sont rémunérés. Fait que ça devient intéressant, ça, surtout en fin de grossesse où les congés sont... Pas les congés, les suivis médicaux viennent assez fréquents. C'est à toutes les 2 semaines ou à toutes les semaines en toute fin de grossesse. En plus des échographies, des prises de sang pour les routines 1, 2. Puis évidemment, là, si ça n'allait pas bien, il y aurait peut-être plus de suivi, etc. Enfin, ça, c'est assez flexible. Il y a plein de congés. Il y a 9,6 congés de maladie. Fait que ça, en masse, ça se prend en demi-journée pour les congés de rendez-vous, puis tout ça. Puis une autre chose qui est intéressante, c'est que dans nos journées, admettons, on a 20 journées de vacances par année. Mais dans les 20 journées de vacances par année, il y en a 10 qui sont reportables. Ce qui veut dire que si une année, tu prends 10 journées de congé, bien l'année suivante, tu peux en avoir 30. Il faut penser qu'on doit toujours les utiliser en respectant la fameuse règle des 75%. Donc, tu ne peux pas manquer plus que 75% des journées de ton stage. Fait que sur une période de 20 jours de stage, tu dois être en stage au moins 15 jours. Donc, il y a les congés reportables, comme je mentionnais. Et en grossesse, tous ces congés-là se renouvellent au 1er juillet quand même. Ce qui veut dire que malgré le congé de maternité qui peut durer, pour ma part, 7 à 8 mois, par exemple, mais au 1er juillet de l'année suivante, je vais quand même bonifier puis renflouer les coffres un peu de mes journées de congés disponibles. Fait que ça devient intéressant pré-accouchement de bien utiliser ces journées-là qui sont disponibles, qui vont être renouvelées de toute manière. Moi, je n'hésite pas à me mettre des vendredis de congé parce que je sais que le soir, c'est plus difficile pour moi d'être productive. Je suis plus fatiguée qu'avant, c'est vrai, je me couche plus tôt. Donc, je n'hésite pas à me mettre des journées de vacances, des vendredis ou des journées d'études que j'utilise pour aller tout mettre à jour mes dossiers, pour appeler les patients que je n'ai pas eu le temps d'appeler, pour compléter mes petites tâches, mon projet d'érudition, mes différentes implications. Fait que, oui, c'est des journées de congé que j'utilise dans le fond pour travailler, mais c'est ma méthode à moi pour arriver puis gérer ma fatigue puis offrir le meilleur de moi-même à mes patients, même si je suis enceinte.
Mais c'est vraiment intéressant. C'est fou à quel point il y a une belle organisation autour de tout ça, puis que tu es bien encadrée malgré les décisions, ben pas malgré, mais selon les décisions qu'on veut faire par rapport à notre vie familiale. Puis une petite question qui me vient comme ça, on parle de patients. Qu'est-ce qui se passe quand tu pars en congé de maternité? Les patients qui sont à ta charge, est-ce qu'ils sont redistribués à travers tes collègues au GMFU ou est-ce que c'est juste en attente que tu reviennes? Qu'est-ce qui se passe?
Bien, en fait, ça va dépendre du type de suivi que je fais avec chacun de mes patients. Ça, c'est un peu la réalité des patrons aussi. Puis c'est quelque chose de positif, je trouve, d'explorer cette réalité-là à la résidence parce que je vais être vraiment chapeautée puis appuyée par mes patrons puis ils vont m'aider à faire des choix puis à me dire comment s'assurer que tous les patients soient bien suivis. Donc, moi, je dois faire un suivi très serré au niveau du dossier parce que je sais que je vais partir. Donc, je fais des plans de soins vraiment très, très clairs, ce qui devrait toujours être fait, mais je le fais avec la pensée que si mon plan de soins est lu par un autre résident ou un patron, est-ce qu'il est vraiment capable de le mettre en place comme moi je le veux? Je m'affilie beaucoup avec les infirmières qui sont capables de faire par ordonnance verbale les suivis de diabète, les suivis de tension, qui sont capables de faire des suivis au niveau du dépistage cognitif. Fait que les infirmières sont vraiment des très, très bons alliés. Puis pour la planification comme telle du congé à court terme, mais admettons si j'ai un enfant que j'ai vu, ben en fait, c'est une réalité, j'ai un enfant que j'ai vu à 2 ans au mois de septembre. Moi, je vais être revenue au mois de septembre l'année prochaine. Donc, techniquement, son examen périodique de 3 ans, c'est moi qui vais le faire. Donc, probablement que ce patient-là, je vais l'avoir à ma charge. Probablement que je ne le passerai pas comme tel, je ne le transférerai pas comme tel à un collègue, mais que ça va être, nous, à notre clinique, comment ça fonctionne, c'est le médecin qui est vraiment indiqué comme médecin de famille au dossier qui va le suivre si jamais, admettons, il se présente parce qu'il fait une otite au besoin. Pour mes patients un petit peu plus chroniques qui ont besoin de suivi rapproché ou mes suivis de grossesse ou mes bébés que je vois de façon plus régulière jusqu'à 1 an, mais à ce moment-là, je vais les transférer à mes collègues qui vont être disponibles selon leurs intérêts puis selon leur disponibilité aussi parce qu'il y en a qui vont partir également en stage à travers la région. Une autre chose à penser, c'est que tous les patients ne sont pas nécessairement à nous. Moi, quand je suis arrivée, en ce moment, j'ai peut-être 20aine de patients à mon nom, mais j'ai aussi des patients de la médecin qui vient juste de partir en congé de maternité. Donc, elle, je vais suivre ses patients quelques temps, puis le relais est déjà organisé. Puis, j'ai des patients aussi que je suis actuellement de d'autres collègues résidents qui vont être simplement capables de prendre le relais par la suite. Il y a beaucoup d'entraide à notre GMF. J'espère que c'est comme ça partout, mais je sens que ça va bien se faire. Je n'ai pas de gros stress.
J'ai l'impression que plus les années avancent, plus le programme de médecine s'adapte beaucoup à comme des jeunes femmes qui veulent avoir des grossesses puis qui veulent avoir des enfants jeunes. Fait que je pense que c'est vraiment une belle chose parce que je pense qu'avant, c'était un petit peu plus difficile là, de se permettre des congés maternité puis dans un domaine comme avec beaucoup de pression comme le nôtre.
Possiblement. Juste des fois, les vieux patrons, c'était pas quelque chose qui existait là, avant de prendre des congés de maternité. Là. C'était une réalité qui... Juste se faire remplacer, puis la charge de travail, c'était vraiment difficile. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'ouverture. Puis c'est comme ça, je pense, dans tous les domaines. Là. Mon conjoint qui est en mécanique automobile. Maintenant, ils prennent des congés de paternité, mais ses patrons, à lui, ils n'ont jamais pris de congé de paternité de leur vie. Là. Ils arrêtaient une semaine quand le bébé naissait, puis après ça, c'était les vacances. Puis, on est dans une société qui évolue, je pense que c'est bien pour la maternité puis la famille, parce que c'est ça qui fait qu'on a un développement maximal de nos enfants aussi. D'être présent, puis de leur montrer qui on est, puis ça crée des beaux liens d'attachement.
Puis aussi, je pense que le fait que, tu sais, en fait, que les jeunes filles qui veulent aller en médecine puis qui aimeraient avoir des enfants jeunes, je pense que ça les encourage à vouloir peut-être rentrer dans le programme, même si... parce que honnêtement, personnellement, moi, ça a quand même été un point tournant, là. Tu sais, je me suis informée là-dessus, c'était quoi l'aide qu'on avait si on voulait avoir un enfant durant la résidence ou durant le parcours. Puis parce que si j'avais trouvé en fait qu'il n'y avait pas assez d'aide ou que c'était juste pas possible, ben j'aurais peut-être fait un autre choix de carrière. Fait que je pense que c'est vraiment bien que ça soit rendu plus ouvert d'esprit un peu, là. Puis j'avais une dernière question pour toi. Dans le fond, on aimerait savoir, là, qu'est-ce que tu dirais à une étudiante en médecine qui souhaite avoir un enfant durant son parcours scolaire? Que ce soit externe, je sais que tantôt, tu n'avais pas l'air de trouver que c'était une bonne idée, là, mais peut-être plus à la résidence.
Bien, je ne veux pas dire que ce n'est pas une bonne idée, mais je pense que ça dépend de tes intérêts puis de tes décisions. Je suis persuadée que la faculté peut être ouverte à ça. Par contre, c'est ça, il faut considérer peut-être le côté financier de la chose, puis les tâches. Il y a quand même un énorme examen là, à la fin de l'externat. L'externat, ça va vite. Puis c'est beaucoup de stages où il y a beaucoup de choses à expliquer aux patrons. C'est de la chirurgie, puis c'est comme un stage à la fois comparativement à la résidence où, ben là, tu es toujours suivi en médecine familiale par ton GMFU. Mais comme une patronne m'a dit, elle m'a dit, il n'y a jamais de meilleur moment que le moment où tu es prêt à avoir des enfants. Être prêt dans ton couple, que les deux soient ouverts, que les deux soient rendus là, qu'il y ait une bonne cohésion, une bonne collaboration. Puis évidemment, qu'il n'y ait pas de cachette. Là. La médecine, c'est exigeant. Puis c'est pas moins exigeant parce qu'il y a un bébé qui s'en vient. Ça va toujours être difficile. Puis c'est important, je pense, d'avoir un beau soutien, un beau réseau autour de nous. Nous, on est de Québec les deux. Puis toute notre famille est à Québec. Je sais qu'il va avoir des bras en masse pour m'en occuper les soirs que je vais être de garde. Là. Si j'avais été à la résidence, je ne sais pas, à Chicoutimi avec mon conjoint, puis qu'on avait été seulement nous deux là-bas, est-ce que j'aurais pris les mêmes décisions? Je ne sais pas. Il y a le côté financier à regarder, évidemment, j'en parle beaucoup, mais l'argent, ça fait partie de la vie. Donc, s'il n'y a pas de soucis financiers, ben, il n'y a pas de questions à se poser, mais si c'est des considérations quand même importantes, ben, à ce moment-là, il y a des petits calculs à faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport au congé, mais aussi par rapport à la conception. Puis finalement, à mon avis, c'est une des plus belles choses qui peut arriver. Là. Un peu plus tard, dans mon parcours de médecine, un moment donné, j'ai arrêté de me dire que sur ma tombe, je ne voulais pas que ce soit écrit juste « Docteur Dominique Vandal ». On parle beaucoup des rôles en médecin, médecine et société, puis... Oui, il y a le rôle de médecin qui est important comme personne, mais toi comme personne, qu'est-ce qui est important pour toi comme rôle? Bien, oui, je vais être médecin, mais c'est important pour moi aussi d'être une conjointe, d'être une amie, puis prochainement d'être une maman. Puis je vais réussir à arrimer tous ces rôles-là, mais il va falloir que j'établisse des priorités dans qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Puis oui, la médecine, c'est une vocation, mais c'est aussi un travail. Puis ça, il ne faut pas l'oublier.
C'est vraiment très bien dit. Franchement, c'est le parfait mot de la fin pour ce premier épisode-là. Je suis certaine que ça va encourager tout plein d'étudiantes, étudiantes ou étudiants, même futurs papas, futures mamans, dans leurs décisions. Peut-être que ça va en rassurer certains. Fait que c'est super, super intéressant. Donc, pour notre mot de la fin, ben, on te dit merci, Dominique. Ça nous a fait tellement plaisir que tu acceptes de discuter avec nous pour notre premier épisode.
Merci à vous de m'avoir reçu. C'était vraiment plaisant. Puis je vous souhaite beaucoup de succès dans ce nouveau balado. C'est très cool, une très belle initiative.
Merci beaucoup. On espère que ça va plaire aux étudiants, à quiconque qui va prendre le temps de nous écouter. Puis on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Balado.